France Culture.
Le journal est présenté par Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Mettre fin à un prétendu golden ticket accordé aux migrants au Royaume-Uni. Le gouvernement travailliste annonce un durcissement drastique du droit d'asile dans le pays où le sujet de l'immigration est devenu central sous la pression de l'extrême droite. Nous reviendrons sur la libération de Camilo Castro, un Français de 41 ans, détenu durant 4 mois par les autorités vénézuéliennes. Il doit regagner la France dans les prochaines heures. Le Venezuela accusé par Washington d'être au cœur du trafic de drogue. Après une semaine d'escalade au large des côtes vénézuéliennes et le lancement d'une opération militaire dans les Caraïbes, quelles sont véritablement les intentions de Donald Trump? On en parle avec notre invité Thomas Posato, maître de conférence en civilisation latino-américaine à l'Université de Rouen. Notre générosité attire les migrants illégaux. Les propos de la ministre britannique de l'Intérieur, Sabana Mahmoud, qui succombe donc aux sirènes de l'extrême droite et annonce un durcissement drastique de la politique d'asile au Royaume-Uni face à la montée du parti immigration, anti-immigration de Nigel Farage, Reform UK. Alors si cette réforme doit être officiellement présentée demain au Parlement, plusieurs mesures ont d'ores et déjà été dévoilées par la ministre qui assume un virage très ferme face à un pays déchiré par l'immigration clandestine, dit-elle. Laura Calmus.
Au ministère de l'Intérieur, on la surnomme déjà la ministre pressée. Après 73 jours à son poste, Shabana Mahmoud veut aller vite et frapper fort. Son objectif, mettre fin à ce qu'elle appelle le golden ticket, le ticket d'or, autrement dit la possibilité pour un réfugié de s'installer durablement au Royaume-Uni avec un droit de séjour permanent après seulement 5 ans. Désormais, ce statut deviendrait temporaire et réexaminé régulièrement. Un virage très ferme qu'elle justifie ce matin sur Sky News.
Nous mettons fin à l'idée que l'asile garantit une installation définitive. Le statut sera temporaire, réévalué tous les 2 ans et demi, et l'accès à une installation permanente prendra désormais 20 ans.
Autre mesure phare, la fin de l'accès automatique aux aides sociales. Hébergement et allocation pourront être coupés pour les demandeurs d'asile qui peuvent travailler mais qui ne le font pas, ou en cas d'infraction de la loi. La ministre confirme aussi que le gel du regroupement familial décidé l'an dernier sera inscrit dans la loi. Et comme au Danemark, les réfugiés pourront être renvoyés dès que leur pays d'origine sera jugé sûr. Ces annonces interviennent dans un climat explosif. La ministre estime que certains profitent du système. Dans un pays où les arrivées par la Manche dépassent déjà 39 000 personnes cette année et où les demandes d'asile ont augmenté de 18%, d'autant plus que le parti anti-immigration Reform UK est aujourd'hui très haut dans les sondages.
Laura Calmus, correspondante de France Culture à Londres. Tandis qu'en France, l'exécutif souhaite de son côté durcir sa politique contre les étrangers présumés dangereux. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dit ainsi dans une interview à la Tribune dimanche soutenir l'allongement de la durée de rétention à 210 jours, soit 7 mois, contre 90 jours actuellement dans les centres de rétention administrative de certains ressortissants étrangers présumés dangereux. Une durée uniquement applicable pour l'heure aux personnes condamnées pour terrorisme. Cette mesure, défendue par son prédécesseur Bruno Retailleau, a été retoquée par le Conseil constitutionnel, mais elle devrait faire son retour sous forme de proposition de loi, annonce le nouveau locataire de la place Beauvau. Le gouvernement qui veut aussi serrer la vis sur le logement social, le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, souhaite ainsi mettre fin à l'attribution à vie du logement social, déplorant dans les colonnes du JDD le manque de rotation dans les logements sociaux. Le mouvement HLM et les associations de défense des locataires rétorquent de leur côté que ce principe de logement social à vie n'existe pas et que le problème n'est pas le maintien d'un locataire dans un logement social, mais bien l'absence de solution de sortie. Un jeune adolescent de 12 ans, grièvement blessé la nuit dernière, après des tirs survenus sur un point de deal à Grenoble, dans le quartier de Chaurier-Berria, dans l'ouest de la ville. Actuellement dans le coma, son pronostic vital est engagé. Détenu au Venezuela depuis fin juin, le Français Camilo Castro a été libéré. Ce professeur de yoga de 41 ans est actuellement dans un avion vers la France. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé ce matin après 4 mois de détention par les autorités vénézuéliennes. Omar Waman.
Tout a commencé le 26 juin dernier. Camilo Castro, franco-chilien, disparaît à un poste frontière entre le Venezuela et la Colombie où il réside. Ce professeur de yoga de 41 ans s'y était rendu pour renouveler son visa de séjour colombien arrivé à échéance. Pendant des semaines, ses proches n'ont aucune trace de lui. Ce n'est qu'après un échange de prisonniers entre Washington et Caracas à la mi-juillet que l'on apprend qu'il est détenu dans la prison d'El Rodeo, près de la capitale du Venezuela. Libéré, Camilo Castro a pu parler brièvement à ses proches, usé et fatigué par plus de 100 jours de détention, mais désormais hors de danger. Il devrait être rapatrié en France dans les prochaines heures. Pour sa mère et son beau-père, c'est la fin d'un long cauchemar. Ils appellent dorénavant à ne pas oublier les nombreux autres ressortissants étrangers encore détenus arbitrairement au Venezuela.
Omar Ouaman, et cette libération n'a donné lieu à aucune contrepartie, affirme à l'instant le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Si le Venezuela est considéré comme un pays donc ayant recours à la diplomatie des otages, cette libération intervient aussi dans un contexte de très forte tension entre Caracas et Washington. Donald Trump laisse ainsi planer le doute d'une intervention militaire au Venezuela. Il s'est dit vendredi plus ou moins décidé concernant ses intentions et s'énorgueillit d'avoir fait beaucoup de progrès pour empêcher la drogue d'affluer. Car la lutte contre le narcotrafic est l'argument avancé par la Maison-Blanche ces dernières semaines pour justifier les frappes aériennes sur les navires dans les Caraïbes et le Pacifique, frappes qui ont déjà fait près de 80 morts. Une pression qui vire à l'escalade militaire avec l'envoi du porte-avions USS Gerald Ford cette semaine et le lancement jeudi d'une opération militaire au nom martial Lance du Sud. Bonjour Thomas Posado.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en civilisation latino-américaine à l'université de Rouen. Alors à quoi vise cette opération militaire américaine ?
Officiellement, il y a une volonté de lutter contre le narcotrafic. Tout le monde sait que le Venezuela n'est pas le principal pays de transit de la drogue et encore moins un pays producteur de drogue. On décèle une claire volonté de changement de régime à Caracas par ces pressions militaires qui visent à essayer, dans le meilleur des cas, de susciter des dissensions au sein de l'armée pour que Maduro quitte le pouvoir. Pour l'instant, cet objectif n'est pas rempli, mais on voit une claire volonté de changement de régime de la part de Donald Trump contre Nicolas Maduro.
Donald Trump qui a donné des indications contradictoires sur sa stratégie, il évoque probablement des frappes sur le sol vénézuélien, des jours comptés pour le président vénézuélien Nicolas Maduro, présenté comme chef d'un cartel. Est-ce que les États-Unis pourraient intervenir au sol militairement au Venezuela ?
Pour l'instant, l'intervention au sol me semble pas d'actualité. On sait que les dernières interventions au sol ont été très coûteuses pour les États-Unis, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, ils n'ont pas été des succès. Les experts estiment que pour un pays de la taille du Venezuela, enfin, le Venezuela, c'est deux fois la France, c'est quand même un pays qui est autour de la 50e, 60e budget militaire au monde. Enfin, donc c'est un pays qui est mineur par rapport aux États-Unis, mais qui serait tout de même un morceau important pour affronter et qu'il faudrait au moins 100 000 hommes pour déclencher une opération de ce type. Aujourd'hui, il y a autour de 10 000, 15 000 militaires états-uniens sur les côtes vénézuéliennes. Donc ce n'est pas ce projet pour l'instant qui est en cours, sachant en plus qu'il n'y a plus d'intervention militaire terrestre en Amérique latine de la part des États-Unis depuis 1989, donc depuis plus de 40 ans, à l'époque au Panama, sur un motif de soupçon de narcotrafic, cette fois qui était fondé, contrairement à ce qui se passe au Venezuela.
Alors l'armée vénézuélienne annonce de son côté le déploiement massif de l'armée dans tout le pays contre l'impérialisme américain. Nicolas Maduro y voit la volonté américaine d'imposer un changement de régime. Vous dites que c'est une crainte légitime.
Oui, enfin les menaces répétées, le fait que le président Donald Trump dise que les jours de Nicolas Maduro au pouvoir sont comptés, le fait dont on sait que c'est une volonté ancienne du ministre des Affaires étrangères états-unien, donc le secrétaire d'État Marco Rubio, qui a fondé une grande partie de sa carrière politique sur une opposition frontale et une volonté de changement de régime à Cuba et au Venezuela, l'intention est claire. Enfin, les menaces sont assez claires. Et le Venezuela est particulièrement visé pour cette raison. Enfin, si c'était vraiment une lutte contre le narcotrafic, les États-Unis procéderaient différemment et ne viseraient pas particulièrement le Venezuela, qui est très loin d'être la principale menace sur cet aspect.
Donc finalement, c'est la volonté des États-Unis de remettre la main sur l'Amérique latine, chasser la Chine, notamment de la région, dans une région longtemps considérée comme l'arrière-cour des États-Unis.
Oui, c'est sans doute le grand changement de ce 21e siècle. Au début du siècle, la Chine occupait une part très minoritaire du commerce avec l'Amérique latine. Aujourd'hui, c'est devenu le principal partenaire commercial de la plupart des pays sud-américains. Et depuis le début de son second mandat, on voit de la part de Donald Trump une offensive très très marquée à l'égard de l'Amérique latine pour qu'elle accepte de nouveaux immigrants, et l'Amérique centrale joue un rôle clé là-dessus pour reprendre la main sur le canal de Panama donc ces pressions militaires contre le Venezuela. Ça ne veut pas dire que cela va marcher. Les pays latino-américains voient de plus en plus, de fait, et ces pressions militaires accroissent cette idée que la Chine est un partenaire plus fiable que les États-Unis, moins menaçant, créant moins d'ingérence, et la Chine continue à avancer. Il y a un grand port au Pérou construit par les Chinois qui s'appelle le port de Shanghai et qui est la porte d'entrée des marchandises chinoises en Amérique latine. On voit une volonté de reprendre par la force ce que les États-Unis ont perdu d'un point de vue commercial ces dernières décennies.
Merci beaucoup Thomas Posado. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en civilisation latino-américaine à l'université de Rouen et auteur notamment de Venezuela, de la révolution à l'effondrement, paru en 2023 aux presses universitaires du Midi. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation de cet entretien. Lui espère justement que les bases militaires américaines feront leur retour sur son sol. Le président équatorien Daniel Noboa, allié des États-Unis, soumet cette question aux électeurs aujourd'hui lors d'un référendum sur le retour des bases militaires étrangères dans leur pays dans un contexte de violence sans précédent du crime organisé. Daniel Noboa, qui prône une politique de fermeté contre les gangs et cartels, a par ailleurs inauguré cette semaine la première des prisons de sécurité maximale qu'il souhaite construire dans le pays. 300 prisonniers environ y ont été transférés, dont l'ancien vice-président Jorge Glas, condamné pour corruption. Les explications de notre correspondant en Équateur, Eric Sanson.
Depuis le début de la semaine, des convois fortement protégés et des hélicoptères ont multiplié les déplacements vers la prison de l'Encuentro, voulue et construite par le président Noboa. 300 détenus considérés comme extrêmement dangereux et l'ancien vice-président Jorge Glas ont été transférés dans les 6 pavillons de la prison, le tiers de sa capacité. Pour s'assurer qu'ils ne pourront plus diriger leur réseau criminel depuis leur cellule, la prison de l'Encuentro compte sur la technologie, l'intelligence artificielle et les inhibiteurs de téléphones portables. Pour l'heure, la presse n'a pas l'autorisation de s'approcher de la prison. Le ministre de l'Intérieur, John Reinberg, s'en est expliqué à la télévision.
Je n'ai pas besoin de publicité autour de la prison. C'est un centre de réclusion de sécurité maximale et il n'est pas prévu de la faire visiter aux médias.
Et en attendant, le président Daniel Noboa tient ses images et son message de fin de campagne électorale sur ses réseaux sociaux. Cette prison va faire réfléchir toute personne souhaitant violer la loi, annonce le président. Musique dramatique, images de détenus marchant tête basse devant des policiers armés, prisonniers rasés de près. Les images rappellent la propagande du président salvadorien Nayib Bukele, avec un impact qui reste à déterminer, selon Cynthia Achinatasig, habitante de la province de Manabí.
Les images de la prison peuvent avoir impressionné certaines personnes, mais d'autres les voient comme une stratégie politique.
Réponse dimanche soir avec les résultats du référendum portant sur 4 questions: la possibilité d'installer des bases militaires étrangères en Équateur, la réduction du nombre de députés et du financement public des partis politiques et la rédaction d'une nouvelle constitution.
Autre scrutin aujourd'hui au Chili, où quelques 15 millions d'électeurs doivent élire leur nouveau président après une campagne marquée par une poussée de l'extrême droite qui a fait de la lutte contre le crime organisé et les expulsions de migrants ses axes de campagne. Et la droite radicale pourrait bien revenir au pouvoir pour la première fois depuis la fin de la dictature Pinochet. Le candidat d'extrême droite José Antonio Kast talonne la candidate Jeannette Jarrah à la tête d'une coalition de centre-gauche actuellement au pouvoir. La météo de votre après-midi. Avec de fortes pluies attendues sur l'est du Rhône et particulièrement sur les Alpes-Maritimes, des averses plus irrégulières se poursuivent des Pays de la Loire à l'Auvergne. Le ciel restera voilé du Pays Basque au Golfe du Lion. Comptez 11 à 15 degrés sur la moitié nord, 14 à 18 degrés en général au sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, Alex Dang à la technique.